Les ruines de Tipaza, sur la côte algérienne, s'élèvent à quelques pas de la mer. Sur la ville ancienne s'est greffé un petit village de pêcheurs et de cultivateurs, où la vie est odorante. Plusieurs peuples, des dieux différents, pendant des siècles, se sont succédés là. Aujourd'hui, on suit les rues de la cité oubliée à travers des champs couverts d'arbres amers. Puis sur les coteaux qui dominent la baie, des colonnes couleur de pin remplacent les eucalyptus. Plus loin encore, sur la dernière pente déjà sableuse des collines, le tamaris et l'absinthe poussent entre des sarcophages. À la dernière pierre taillée qui se distingue à peine du rocher, commence la mer. En ce lieu, il y a près de 20 ans, j'ai passé des matinées entières à errer dans les ruines, à me chauffer contre les pierres, à respirer, à découvrir les petites roses du printemps vite effeuillées. À midi seulement, les jours d'été, je fuyais devant la vide flamboiement d'une lumière qui dévorait tout. C'était l'heure où les cigales elles-mêmes se taisaient, assommées. La nuit, parfois, je dormais les yeux ouverts sous un ciel ruisselant d'étoiles. Je vivais alors. Il y a 2 ans, je suis retourné à Tipaza après une longue absence. Ce lieu, pour moi du moins, est toujours l'un des plus beaux du monde. Mais les ruines sont maintenant entourées de barbelés et l'on ne peut y pénétrer que par les seuils autorisés. Il est interdit aussi, pour des raisons que la morale paraît-il approuve, de s'y promener la nuit. Le jour, on y rencontre un gardien assermenté. Et par hasard sans doute, le matin où j'y suis allé, il pleuvait sur toute l'étendue des ruines. Je ne peux m'empêcher de voir un symbole dans ces 2 images, comme je trouve significatif que j'ai pu, il y a longtemps, fixer mon départ en Grèce pour un jour devenu célèbre depuis, le 2 septembre 1939. Je ne suis pas allé en Grèce et la guerre est venue à nous. Ces 20 ans qui séparent les ruines chaudes des barbelés, je les retrouve également en moi. J'ai été élevé d'abord dans le spectacle de la beauté qui était ma seule richesse. J'ai commencé par la plénitude et par cette liberté dont Proudhon dit admirablement qu'elle est un don de la mer. Puis sont venus les barbelés, je veux dire les tyrannies, la guerre, l'insupportable haine, le temps de la révolte. Il a fallu se mettre en règle avec la nuit. La beauté du jour n'a plus été qu'un souvenir. Mais dans les pires années de notre folie, ce souvenir ne m'a jamais quitté. C'est lui qui, pour finir, m'a empêché de désespérer. Et l'on sait qu'il y a aujourd'hui plusieurs façons de désespérer, dont la plus commode consiste à trahir ses frères et consentir à ce que l'homme soit asservi. Malgré tous mes aveuglements, j'ai toujours su, au contraire, que les ruines de Tipaza étaient plus jeunes que nos chantiers et nos décombres. J'ai toujours su aussi que la mer existait, et c'est pourquoi j'ai vécu au milieu de ce temps mortel. De même, dans ce que je n'ose encore appeler mon œuvre, et en tout cas dans les textes qui vont suivre, il me semble qu'on peut aisément apercevoir ces 2 forces, même et peut-être surtout lorsqu'elles se contrarient. Je n'ai rien renié du pays où je suis né, et cependant, j'ai voulu ne rien ignorer des servitudes du temps. Il serait trop facile d'opposer ici au doux nom de Tipaza d'autres noms plus sonores et plus cruels. Il y a pour les hommes d'aujourd'hui un chemin intérieur que je connais bien pour l'avoir parcouru dans les 2 sens, et qui va des collines de l'esprit aux capitales du crime. Bien sûr, on peut toujours le refuser, s'endormir sur la colline, ou se carrer dans le crime. Mais si l'on renonce à une part de ce qui est, il faut renoncer soi-même à être. Il faut donc renoncer à vivre ou à aimer autrement que par procuration. Il y a ainsi une volonté de vivre sans rien refuser de la vie, qui est la vertu que j'honore le plus en ce monde. De loin en loin, au moins, je voudrais la voir exercée. Peu d'époque, autant que la nôtre, après tout, ne demande qu'on se fasse égal au meilleur comme au pire. J'ai toujours souhaité justement ne rien éluder et garder exacte une double mémoire. Oui, il y a la beauté et il y a les humiliés. Quels que soient mes défauts d'homme et d'écrivain, je voudrais n'avoir jamais été infidèle ni à l'une ni aux autres.
Maria a raison. Cette heure est difficile. Que fait-elle? Que pense-t-elle dans sa chambre d'hôtel? Le cœur fermé, les yeux secs, toute nouée au creux d'une chaise. Les soirs de là-bas sont des promesses de bonheur, mais ici, au contraire. Allons, cette inquiétude est sans raison, il faut savoir ce que l'on veut. C'est dans cette chambre que tout sera réglé.
J'espère, monsieur, que je ne vous dérange pas. Je voudrais changer vos serviettes et votre eau.
Je croyais que cela était fait.
Non, le vieux domestique a quelquefois des distractions.
Cela n'a pas d'importance, mais j'ose à peine vous dire que vous ne me dérangez pas.
Pourquoi?
Je ne suis pas sûr que cela soit dans nos conventions.
Vous voyez bien que vous ne pouvez pas répondre comme tout le monde, même en croyant tout concilié.
Il faut bien que je m'y habitue, laissez-moi un peu de temps.
Toute la question est là. Je regrette, monsieur, que cette chambre ne soit pas aussi confortable que vous pourriez le désirer.
Elle est particulièrement propre et cela a bien son prix. Vous l'avez d'ailleurs récemment transformée, n'est-ce pas?
Cela est vrai, comment le voyez-vous?
Il y a des détails.
En tout cas, bien des clients regrettent l'absence d'eau courante et l'on ne peut pas vraiment leur donner tort. Il y a longtemps aussi que nous voulions faire placer une ampoule électrique au-dessus du lit. Je suppose que ce doit être désagréable pour ceux qui lisent au lit d'être obligés de se lever pour tourner le commutateur.
En effet, je ne l'avais pas remarqué. Mais ce n'est pas un gros ennui.
Vous êtes très indulgent et nous vous en sommes reconnaissantes. Je me félicite que les nombreuses imperfections de notre auberge vous soient indifférentes et vous préoccupent moins que nous. J'en connais d'autres qu'elles auraient suffi à chasser.
Malgré nos conventions, laissez-moi vous dire que vous êtes singulière. Il me semble en effet que ce n'est pas le rôle de l'hôtelier de mettre en valeur les défectuosités de son installation. Et l'on dirait vraiment que vous cherchez à me persuader de partir.
Ce n'est pas tout à fait ma pensée. Mais il est vrai que ma mère et moi hésitons beaucoup à vous recevoir.
J'ai pu remarquer au moins que vous ne faisiez pas beaucoup pour me retenir. Mais je ne comprends pas pourquoi. Vous ne devez pas douter que je sois solvable et je ne donne pas l'impression, j'imagine, d'un homme qui a quelques méfaits à se reprocher.
Non, ce n'est pas cela. Si vous voulez le savoir, non seulement vous n'avez rien du malfaiteur, mais vous portez encore tous les airs de l'innocence. Notre raison est ailleurs. Nous devons quitter cet hôtel et depuis quelque temps, nous projetions chaque jour de fermer l'établissement pour commencer nos préparatifs. Cela nous était facile, il nous vient rarement des clients. Mais c'est avec vous que nous comprenons à quel point nous avions abandonné l'idée de reprendre notre ancien métier.
Avez-vous donc le désir précis de me voir partir?
Je vous l'ai dit, nous hésitons. Et surtout, j'hésite. En fait, tout dépend de moi. Et je ne sais encore à quoi me décider.
Je ne veux pas vous être à charge, ne l'oubliez pas. Et je conformerai ma conduite à vos désirs. Je dois dire cependant que cela m'arrangerait de rester encore un ou deux jours. J'ai des affaires à mettre en ordre avant de reprendre mes voyages. Et j'espérais trouver ici la tranquillité et la paix qu'il me fallait.
Je comprends votre désir, croyez-le bien. Et si vous le voulez, j'y penserai encore. Allez-vous donc retourner au pays d'où vous venez?
Oui, s'il le faut.
C'est un beau pays, n'est-ce pas?
Oui, c'est un beau pays.
On dit que dans ces régions, il y a des plages tout à fait désertes.
C'est vrai. Rien n'y rappelle l'homme. Au petit matin, on trouve sur le sable les traces laissées par les pattes des oiseaux de mer. Ce sont les seuls signes de vie. Quant au soir...
Quant au soir, monsieur.
Ils sont bouleversants. Oui, c'est un beau pays.
J'y ai souvent pensé. Des voyageurs m'en ont parlé. J'ai lu ce que j'ai pu. Et souvent, comme aujourd'hui, au milieu de l'aigre printemps de ce pays, je pense à la mer et aux fleurs de là-bas. Et ce que j'imagine me rend aveugle à tout ce qui m'entoure.
Je comprends cela. Le printemps de là-bas vous prend à la gorge. Les fleurs éclosent par milliers au-dessus des murs blancs. Si vous vous promeniez une heure sur les collines qui entourent ma ville, vous rapporteriez dans vos vêtements l'odeur de miel des roses jaunes.
Cela est merveilleux. Ce que nous appelons le printemps ici, c'est une rose et deux bourgeons qui viennent de pousser dans le jardin du cloître. Cela suffit à remuer les hommes de mon pays. Mais leur âme ressemble à cette rose avare. Un souffle plus puissant les fanerait. Ils ont le printemps qu'ils méritent.
Vous n'êtes pas tout à fait juste, car vous avez aussi l'automne.
Et qu'est-ce que l'automne ?
Un deuxième printemps où toutes les feuilles sont comme des fleurs. Peut-être en est-il ainsi des âmes que vous verriez fleurir si seulement vous les aidiez de votre patience.
Je n'ai plus de patience en réserve pour cette Europe où l'automne a visage de printemps et le printemps odeur de misère. Mais j'imagine avec délice cet autre pays où l'été écrase tôt, où les pluies d'hiver noient les villes. Et où enfin les choses sont ce qu'elles sont. Pourquoi me regardez-vous ainsi ?
Pardonnez-moi, mais puisqu'en somme nous venons de laisser nos conventions, je puis bien vous le dire, il me semble que pour la première fois vous venez de me tenir un langage humain.
Vous vous trompez sans doute. Et si cela était, vous n'auriez pas de raison de vous en réjouir. Si c'est là ce que j'ai d'humain, ce n'est pas ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai d'humain, c'est ce que je désire. Et pour obtenir ce que je désire, je crois que j'écraserai tout sur mon passage.
Ce sont des violences que je peux comprendre. Et je n'ai pas lieu de m'en effrayer puisque je ne suis pas un obstacle sur votre chemin et que rien ne me pousse à m'opposer à vos désirs.
Vous n'avez pas de raison de vous y opposer, cela est sûr. Mais vous n'en avez pas non plus de vous y prêter. Et dans certains cas, cela peut tout précipiter.
Qui vous dit que je n'ai pas de raison de m'y prêter ?
Le bon sens et le désir où je suis de vous tenir en dehors de mes projets.
Si je comprends bien, nous voilà revenus à nos conventions.
Oui. Et nous avons eu tort de nous en écarter, vous le voyez bien. Je vous remercie seulement de m'avoir parlé des pays que vous connaissez. Et je m'excuse de vous avoir peut-être fait perdre votre temps. Je dois dire cependant que pour ma part, ce temps n'a pas été tout à fait perdu. Il a réveillé en moi des désirs qui peut-être s'endormaient. S'il est vrai que vous teniez à rester ici, vous avez sans le savoir gagné votre cause. Car j'étais venue presque décidée à vous demander de partir. Mais vous le voyez. Vous en avez appelé à ce que j'ai d'humain. Et je souhaite maintenant que vous restiez. Mon goût pour la mer et les pays du soleil finira par y gagner.
Votre langage est bien étrange. Mais je resterai si je le puis. Et si votre mère non plus n'y voit pas d'inconvénient.
Ma mère a des désirs moins forts que les miens, cela est naturel. Elle n'a donc pas les mêmes raisons que moi de souhaiter votre présence. Elle ne pense pas assez à la mer et aux plages sauvages pour admettre qu'il faille que vous restiez. C'est une raison qui ne vaut que pour moi. Mais en même temps, elle n'a pas de motif assez fort à m'opposer. Et cela suffit à régler la question.
Si je comprends bien, l'une de vous m'admettra par intérêt et l'autre par indifférence.
Que peut demander de plus un voyageur ? Mais il y a du vrai dans ce que vous dites.
Il faut donc m'en réjouir. Mais peut-être admettrez-vous que tout ceci me paraît singulier. Le langage et les êtres. Cette maison est vraiment étrange.
Peut-être est-ce seulement que vous vous y conduisez de façon étrange.